Bienvenue sur les chemins du vendredi où cette année encore, vous entendrez chaque semaine à ce micro un philosophe ou une philosophe vous parler de son métier. Être philosophe, est-ce un métier d'ailleurs? Est-ce une vocation? Où commence et comment s'initie l'activité philosophique? Et quel rôle les philosophes doivent-ils jouer dans la cité? Mon invitée aujourd'hui s'appelle Agnès Guéraud, elle est docteure en philosophie, auteure, compositrice et interprète du projet musical La Féline, professeure d'esthétique à la Villa Arson, et voici ce qui pourrait ressembler à son portrait musical en quelques secondes.
Bon, alors attention, voici maintenant le résultat du Grand Prix de la pop musique.
Tranana, nana, tranana. Bon, la rue Tournelle, c'est un petit air.
Thank you for coming at so late an hour, Dr. Judd. I phoned you because I'm troubled. I think you can help me.
Tout cela est inoffensif et d'ailleurs démocratique, parce qu'obéissant à une demande, il est vrai préfabriqué.
J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer.
Bonjour Agnès Guéraud.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous aurez peut-être reconnu dans ce mix monté par Thomas Beau, la voix de Deleuze, un extrait du film La Féline, la voix d'Hermann Hermite, celle d'Adorno, celle d'Anne Sylvestre, autant de voix qui vont nous accompagner ce matin. Est-ce que vous vous présentez comme chanteuse ou comme philosophe?
Ici, maintenant, bon, on va essayer philosophe.
Vous l'avez jamais fait?
Plus souvent comme chanteuse, finalement. Si, non, mais je suis venue vous voir comme philosophe pour Dialectique de la Pop, mais profession philosophe, c'est une promotion, là.
Dialectique philosophe, Dialectique de la Pop, pardon, c'est un livre que vous avez publié l'an dernier, vous étiez venu en parler à ce micro, c'est vrai, et dans lequel vous faites œuvre de philosophe, et le grand public vous connaît sans doute davantage pour votre projet musical, c'est comme ça que vous le présentez, qui s'appelle La Féline, du nom du film de Tourneur, dont on reparlera tout à l'heure. Quand vous vous présentez comme philosophe, au moins le temps de cette émission, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Vous arrivez à donner une définition de ce que c'est?
Alors, humblement, c'est simplement, en l'occurrence, le fait d'avoir fait des études de philosophie, c'est-à-dire d'avoir reçu un enseignement des textes philosophiques depuis la terminale. Je me rappelle que avant ça, en première, je voulais déjà faire de la philosophie. Mon professeur de français m'avait dit « Ah non, ça m'est interdit ». Donc c'était tout à fait attirant et sulfureux.
Pourquoi interdit?
C'était une réponse étrange, mais que je n'ai pas oubliée. Il estimait que il n'y avait pas à parler de philosophie.
Ah, lui, avant. Ça lui était interdit.
Voilà,
à lui.
Voilà. Et j'étais assez méfiante d'ailleurs avec la philosophie au départ, mais j'avais les méditations métaphysiques de Descartes. Et j'ai lu de bout en bout, en essayant de vraiment comprendre. Et au fur et à mesure, je me rendais compte que je comprenais, que cet auteur-là m'expliquait des choses en fait tout à fait passionnantes. Et je me suis éprise de philosophie avec ce texte-là. Alors ça paraît pas très romantique, mais c'est Descartes, qui m'a, où tout à coup l'agencement des concepts, la façon dont on entrait dans la pensée, c'est comme si j'avais reconnu une possibilité intellectuelle que j'avais en moi, mais qui s'était jamais exprimée dans les conversations ou dans d'autres pratiques intellectuelles, même littéraires. Mais j'ai déraillé un peu immédiatement. C'est peut-être ça, être philosophe, c'est immédiatement digresser vers quelque chose qui n'est pas tout à fait la question. Mais voilà, philosophe, ça serait d'avoir fait des études de philosophie dans un premier temps. Pour un premier aspect, enseigner la philosophie et avoir écrit ce livre de philosophie. Finalement, tout ça, ce sont ces trois faits, c'est très factuel finalement, sur quoi je pourrais m'autoriser à m'appuyer pour dire que je suis philosophe.
Et c'est un métier être philosophe ?
Alors c'est intéressant de poser la question comme ça parce que moi longtemps j'ai fait ma thèse et ensuite j'ai vraiment vécu de pas grand chose de cachet, de concert et de même si je suis agrégée, je pouvais enseigner en lycée mais comme je voulais faire de la musique, moi j'ai pris des années de disponibilité. Et donc un métier, c'est ce qui vous permet de gagner de l'argent. Et je peux pas dire que je gagne vraiment de l'argent avec la philosophie. Donc non, je pense que c'est un savoir et c'est une pratique.
Votre métier, c'est davantage la musique.
J'enseigne aujourd'hui la philosophie dans une école d'art, voilà. Donc voilà, c'est mon métier de ce point de vue-là aussi, mais musicienne, c'est aussi mon métier puisque quand je me produis sur scène, il y a des cachets, je gagne mes 80 euros par soir Voilà, enfin, comme je ne joue pas tous les soirs. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est, finalement, si c'est deux métiers, j'ai vraiment choisi les deux métiers où il faut vraiment trimer pour gagner quoi que ce soit, quoi. Donc, ça reste des métiers peu lucratifs. Donc, c'est un rapport assez socratique dans les deux cas.
Et passionné.
À la pratique. Et totalement passionné. Totalement passionné.
Votre goût pour la musique est antérieur au goût pour la philosophie, j'imagine, parce que la musique, on la découvre avant la philosophie, le plus souvent.
Oui. Alors, bon, l'enfant est vraiment une figure philosophique. Donc, j'imagine que, bon, enfant.
Votre premier album s'appelait Adieu l'enfance,
d'ailleurs. Oui, oui. Alors, c'est paradoxal parce que ça reste. J'ai évidemment un attachement à mon enfance, mais voilà, j'avais des choses à régler profondes et la musique m'y a beaucoup aidé, oui, en effet. Mais l'enfant, elle, que j'étais, a très tôt écrit des textes et chanté ces textes. Et j'avais un petit enregistreur, donc je m'enregistrais. Donc j'avais déjà ce rapport aussi à l'enregistrement. Et c'est resté. Un rapport à la musique comme pratique presque quotidienne, en fait, d'inventer des chansons tout le temps, ça reste jusqu'à aujourd'hui. Et la philosophie, effectivement, sous ce nom-là, je dirais pas que j'ai commencé à réfléchir à 18 ans, encore heureux qu'on réfléchisse avant 18 ans, mais ou à 17 ans quand j'étais en terminale, mais voilà, la philosophie en tant que telle, comme discipline, c'est plus tardif puisque je l'ai découverte beaucoup plus tard.
Et qu'est-ce qui vous a fait envie de faire des études de philosophie puis d'enseigner la philosophie? Est-ce que c'est un texte, une rencontre, un professeur?
Peut-être la dimension pluridisciplinaire de la philosophie. Bon, j'étais c'est classique. J'étais assez bonne élève à l'école, donc à chaque fois je voulais enseigner la matière que j'aimais bien à ce moment-là. Je voulais être prof d'histoire, je voulais être prof d'anglais, je voulais être prof de.
Vous vouliez être prof.
Voilà, j'avais cet attrait pour l'enseignement. J'étais du genre à aider des petits camarades qui galéraient un peu plus ou transmettre. Ça m'a toujours plu, réexpliquer. Et la philosophie, c'est ce qui était immédiatement séduisant, c'était ce fait qu'elle semblait toucher à plusieurs dimensions de l'existence. Alors la littérature aussi, hein, mais il me semblait que je pouvais m'attarder sur la philosophie des sciences, l'anthropologie, l'esthétique, évidemment, là, et la réflexion sur l'art était très séduisante aussi pour moi dès le début. Donc en philosophie, la métaphysique, j'avais l'impression en fait qu'il y avait encore plus de choses dans le panier philosophique que peut-être dans d'autres disciplines. Alors, ce qui peut très légitimement agacer les gens qui font autre chose que de la philosophie, mais voilà.
La philosophie a cette transversalité en même temps, de pouvoir s'intéresser à tous les sujets.
C'est ça. Je dois avouer que cette transversalité, soit cette pluridisciplinarité et cet intérêt pour les objets aussi dans leur factualité, qui enrichissent justement la réflexion conceptuelle. Ça me paraissait un super contexte d'épanouissement, quoi, puisque en faisant de la philosophie, finalement, j'ai même pu m'intéresser à la musique populaire.
Exactement, donc en écrivant un livre sur la musique populaire, parmi les philosophes qui ont beaucoup compté pour vous, on trouve celui-ci.
Chez les intellectuels qui cherchent à concilier leur réserve à l'égard de l'industrie culturelle avec le respect de sa puissance, un ton d'indulgence ironique s'est installé. Nous savons, disent-ils, ce qu'il en est de tout cela, ce qu'il en est des romans feuilletons, des films de confection, des spectacles télévisés à l'intention des familles et délayés pour en tirer des séries d'émissions, et ce qu'il en est des parades de variété, des rubriques de l'horoscope et du courrier du cœur. Mais tout cela est inoffensif et d'ailleurs démocratique, parce qu'obéissant à une demande, il est vrai préfabriqué.
Celui qui affirme que l'intellectuel ne peut pas s'intéresser à l'industrie culturelle sans ironie, c'est Théodore Adorno. Agnès Guéraud, c'est pourtant exactement ce que vous avez fait dans votre livre, et sans ironie. Voilà, la place qu'Adorno a pris pour vous, que vous allez nous raconter, ça paraît contradictoire.
Tout à fait. Bon, c'est quand même admirable. Son français est admirable, je trouve.
C'est d'une archive de la RTF de 1963.
Donc, Adorno, c'est un auteur auquel je me suis intéressée dans un premier temps parce que je cherchais un livre de métaphysique du XXe siècle. J'avais travaillé sur de la métaphysique en maîtrise, ça n'existe plus la maîtrise, le Master 1, oui. Je crois, c'est ça. Qui était Aristote, donc j'avais travaillé sur l'un et le multiple dans le premier livre de la physique d'Aristote.
Donc c'est la métaphysique qui vous intéresse.
Voilà, là en l'occurrence c'est le moment de la fondation métaphysique de la physique par Aristote, qui c'est un texte passionnant. Et évidemment, donc Adorno est très très loin d'Aristote à tous égards, mais je voulais continuer sur... J'avais des discussions avec mes camarades de l'école sur le statut de la métaphysique au XXe siècle, et je voulais m'intéresser à quelqu'un qui se soit penché sur la métaphysique au XXe siècle, qui ne soit pas Heidegger. Voilà, je voulais, parce que on entendait beaucoup dans les cagnes des années 90, fin des années 90, c'est un auteur omniprésent, Heidegger. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Mais voilà, je voulais m'intéresser à une autre approche, et on m'a conseillé la dialectique négative.
Contexte d'Adorno.
Voilà, qu'un texte d'Adorno, et j'étais en plus très... je voulais aussi un texte difficile, je voulais m'affronter à quelque chose d'exigeant. Bon, j'ai pas été déçue.
Oui, hein, c'est un texte le plus difficile, oui.
Voilà, qui est passionnant, qui est assez étrangement construit en réalité, et qui, au fond, n'est pas du tout un texte de métaphysique, c'est ça l'ironie de l'histoire, pour le coup. Peut-être pas celle dont parlait Adorno, mais une autre forme d'ironie, qui est un texte qui cherche les conditions d'un sujet philosophique, alors même qu'on ne croit plus vraiment à la métaphysique. Donc, mais qui a, ce texte a un tel rapport obsessionnel à l'histoire de la métaphysique qu'il en devient un texte métaphysique, alors même que c'est un texte qu'on appellerait plutôt critique. Et la critique, depuis Kant, c'est justement la post-métaphysique. C'est l'idée qu'on renonce à l'identification de l'être en tant que tel, mais qu'on considère soit le phénomène, soit, en l'occurrence chez Adorno, l'objet, c'est la culture en tant que tel. Donc c'est ça, c'est l'être qui est étudié chez Adorno, c'est pas un être comme ça évanescent ou idéal. Mais donc voilà, c'est ce chemin vers Adorno qui était fait de malentendus, finalement,
bah oui.
Parce que je cherchais un texte métaphysique.
Et puis, surtout ce faisant, même si c'est votre goût pour la difficulté qui vous a guidé vers lui aussi, vous êtes intéressé, vous avez travaillé sur un auteur qui semblait mépriser votre autre activité par ailleurs.
Alors, j'ignorais ça.
Parce que c'est quand même intéressant. Est-ce que vous vouliez penser contre vous-même ou vous compliquez encore plus la tâche, puisque visiblement ça vous plaît?
Oui, c'est ça.
Parce qu'Adorno a quand même écrit des pages très, très dures envers ce qu'on pourrait appeler rapidement la pop culture.
Oui. Alors, dans la dialectique négative, il est quasiment pas question de ça. Je savais qu'il était critique du jazz, j'avais pas spécialement approfondi la question au départ, et donc c'est progressivement en faisant ma thèse qui porte sur la critique de la subjectivité de ces figures, donc sur toute l'œuvre en fait d'Adorno, en tout cas tous les textes dont je disposais, que je suis effectivement tombée à la fois sur ces textes critiques du jazz, qui sont très connus et qui ont été critiqués eux-mêmes, mais aussi sur des textes beaucoup moins connus qui sont rassemblés sous le nom de Current of Music, où il parle de la musique populaire légère et de la musique radiodiffusée, la musique standardisée. Et voilà, il y a plein de petits textes épars dans ces textes sociologiques également, et ces conférences, voilà, où cette intervention qu'on vient d'entendre, où il énonce, voilà, une critique. Pas tant de la musique populaire, en fait, si on écoute bien, mais de l'industrie culturelle, dont il a l'intelligence de comprendre qu'en fait, elle s'applique à tous les objets de la culture, et pas exclusivement aux objets censés être légers, en fait. Donc, pour Adorno, une symphonie de Beethoven passée à la moulinette de l'industrie culturelle, c'est aussi dramatique que un produit immédiatement généré en son sein.
Mais vous êtes passé de la critique au sens philosophique à la critique culturelle également. Vous avez exercé en tant que critique culturelle pour le journal Libération.
Oui, critique musicale, je dirais. Parce que, l'idée de la critique de la culture, ça, la culture critique, comme on dit en allemand, ça a un autre sens. C'est une critique de la civilisation. C'est toute une partie des textes de Freud, s'inscrivent dans la critique de la culture en ce sens-là. Mmh. Et donc là, c'est des visions beaucoup plus, à mi-chemin entre les moralistes à la Rochefoucauld, et le catastrophisme, enfin, je sais pas si c'est le terme, mais à la Spengler, enfin, avec une vision décliniste de l'histoire, hein, où vraiment l'humanité va court à sa perte avec la démocratie. Donc, la culture critique ainsi définie, je ne l'ai pas pratiquée. Mais en revanche, critique musicale, oui, parce que la critique musicale, c'est parler d'un objet musical. Donc, c'est pas tout à fait la même échelle que la critique de la culture. J'ai pas été éditorialiste en disant oui, on a encore une preuve de la bêtise humaine, voilà, renforcée par Facebook et Instagram. Je pourrais, hein, mais bon, c'est pas de très grande qualité si j'écris ça comme ça, parce que finalement, c'est pas assez approfondi. Mais voilà, cette critique-là, je l'ai pas pratiquée. J'ai pratiqué une critique musicale qui est, de mon point de vue, une critique très aimante, au contraire, très empathique. Je n'écris quasiment que sur des objets que j'ai vraiment aimés, ou du moins que j'ai trouvé très très intéressants.
L'un de vos collègues s'appelait Olivier Lame. Il a tenu à vous dire quelque chose.
Je sais que la partie du cerveau qui permet de créer et celle qui permet de théoriser sont séparées en principe, mais je pense que chez Agnès, c'est pas complètement le cas. Et je dis ça vraiment comme une qualité. Je pense que son travail de musicienne lui a permis de faire quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire prendre la musique populaire au sérieux, ce qui est quelque chose qui est fait par une minorité, tout particulièrement en France, ce qui est vraiment un mystère, puisque on a tous été bouleversés par une chanson de musique populaire, mais on refuse de prendre la forme d'art qui est responsable de ce bouleversement au sérieux. Et elle, évidemment, en tant que compositrice et en tant que philosophe, elle est obligée de prendre cette forme d'art qu'elle a choisie pour s'exprimer au sérieux.
Olivier Lame, qui est donc journaliste musical au service culture de Libération, on l'entend aussi sur France Culture, hein, il est chroniqueur à La Dispute. Et donc, que pensez-vous, Agnès Guéraud, de cette absence de distinction dans votre cerveau des deux parties entre, d'un côté, la théorie, la philosophie, de l'autre, la création, donc la musique?
Je sais pas si elles sont pas, enfin, non, je pense que, il y a un très beau texte d'ailleurs d'Adorno sur, dans les Minima Moralia, sur l'intelligence, où il parle de, il dit que, bah, c'est une aberration, en fait, de distinguer sensibilité et intelligence. Moi, les gens que je trouve intelligents sont jamais des pierres, quoi, enfin des êtres insensibles. Au contraire, donc c'est une drôle de vision de la rationalité, en fait, que de la priver toujours de corps, ou en l'occurrence d'oreilles.
C'est vrai, mais de fait, quand on lit votre livre, qui est pourtant très bien écrit, hein, mais on sent moins d'émotion que dans vos chansons, évidemment. Donc il y a une distinction.
Oui. Après, je pense que, en effet, la distinction, c'est dans l'adresse. Je crois que être humain et s'exprimer, c'est avoir à sa disposition, ou inventer à sa disposition, des registres d'expression le plus divers possible. Et on se rend compte, hein, quand les enfants, ceux qui sont nés dans des classes plus favorisées que d'autres, ils sont capables de parler un peu en jeune, et puis aussi d'avoir un langage élevé. Plus on a de palettes, plus finalement on s'accomplit aussi humainement, enfin, sans forcément que ça devienne, on devienne une sorte de girouette expressive. Mais, et moi, quand je m'adresse en effet aux lecteurs de Dialectique de la Pop, je ne suis pas en train d'essayer de l'émouvoir. Je suis en train d'essayer de lui faire comprendre quelque chose. Donc, il est certain que la philosophe, elle est là pour faire comprendre, là où la musicienne est là pour émouvoir. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup plus le trac quand je dois jouer une chanson
[S2] Ah oui.
[S1] Que quand je viens parler d'un livre. Quand je théorise, je manipule des concepts qui, à mon sens, appartiennent à tout le monde, ne m'appartiennent pas. Enfin, même si je peux construire, créer des agencements conceptuel, je sais pas, quand je parle d'utopie de la popularité, c'est un agencement conceptuel que je construis, mais finalement, s'il fonctionne, c'est parce que ce sont des termes partagés déjà avant.
C'est une protection, le concept aussi.
Ouais, probablement. Enfin. Probablement. Et c'est vrai que quand je chante Adieu l'enfance, je peux me mettre à pleurer. Alors que c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qui va m'arriver en parlant d'Adorno, quoique.
Ben, on va voir. Voilà, c'est pas d'Adorno qu'on va parler, mais on va attendre un extrait de film. Je sais pas si celui-ci vous fait pleurer.
Thank you for coming at so late an hour, Dr. Judd. I phoned you because I'm troubled. I think you can help me. How much do you believe about the cat people?
The cat people? The story Mrs. Reed told me.
Yes.
I believe, my dear Miss Moore, exactly as I told Mrs. Reed. the story is a product of her own fear, her own overworked imagination.
What would you say, Dr. Judd, if I were to tell you that I believe Irena's story?
Yes?
Twice I've been followed by something that was not human, something that attempted to take my life. I believe that was the cat form of Irena.
France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett.
En 1942 sort La Féline, un film de Jacques Tourneur, dans lequel un personnage féminin, Irina Dubrovna, est une jeune dessinatrice de mode qui pense être une descendante d'une race de monstres slaves. Va s'en suivre des scènes plus ou moins inattendues, parfois peut-être même gore, hein, ça dépend du lexique. Et c'est à ce film que votre groupe doit son nom, La Féline.
Alors, c'est une époque où, d'ailleurs, j'étais à Normale Sup et j'allais voir, j'ai oublié les noms des cinémas d'art et essai, mais on y allait tout le temps, dans le 5e arrondissement, voilà, à l'Action Christine, on allait voir, voilà, il y avait une rétrospective Jacques Tourneur. Donc, j'avais découvert ces films à ce moment-là. Il y avait L'Homme Léopard et Vaudou, qui sont plus expérimentaux que La Féline, qui est vraiment le classique accompli. Et alors bon, si je m'étais appelée L'Homme Léopard, bon, ça serait quand même été un peu
pas
confusionnant
mal.
Mais peut-être qu'aujourd'hui je l'aurais fait, non pas parce que j'ai changé de sexe, mais parce que
libre à vous.
Voilà, la culture critique.
Il y avait un créneau aujourd'hui, en tout cas, c'est sûr, plus qu'à l'époque.
Le zeitgeist a changé. Mais, ou Vaudou, voilà, ça aurait été encore une autre histoire. Non, La Féline, je me vois pas spécialement comme une femme qui se transforme la nuit en panthère pour aller dévorer les hommes parce qu'elle est jalouse. C'est pas sur ce plan-là que c'est joué l'identification, c'est plutôt la fascination pour un objet artistique qui était justement qui était décrit comme un film d'horreur, un film fantastique, mais dans lequel justement il n'y a pas de sang en fait. Enfin, on parlait du mot gore, mais justement il n'y a pas de sang. Les scènes où il y a une scène très célèbre dans une piscine où ensuite on trouve un peignoir déchiqueté. Donc on comprend que cette panthère là était très très menaçante et qu'il en va de la possible mort du personnage qu'elle veut éliminer. Mais donc c'est pas cette identification là, c'est vraiment la dimension très esthétique, très très suggestive avec le noir et blanc, cette espèce de beauté comme ça très impassible. Cible en fait de Simone Simon et voilà l'idée de parler de
l'actrice qui joue le rôle principal d'Irena Dubrovna.
L'idée de traiter de des profondeurs des entrailles en fait des passions humaines peut-être les plus justement les plus potentiellement sanglantes mais tout ça dans une forme finalement assez sophistiquée, assez élégante.
Ça correspond à votre musique ça?
Alors
ce que vous dites
pas à tout mais je crois que c'était un peu au départ quand même en effet une charte esthétique, l'idée que il y avait du feu sous la glace, quoi, mais que ça allait être non pas. Parfois, c'est marrant quand je vais en Angleterre, on me dit ah yes, it's very chic, et je supporte pas quand on me dit que ma musique est chic, parce que c'est vraiment une façon de neutraliser, voilà, toute profondeur en l'occurrence. Mais oui, il y avait cet intérêt pour cette dualité, en tout cas cette ambiguïté là, qui n'était pas en l'occurrence une ambiguïté sexuelle, mais une ambiguïté entre surface et profondeur. Et je crois que c'est ce que j'aime dans la musique. J'aime faire des chansons qui peuvent être aimées par des petites filles et par des érudits de la pop, quoi. Et ça
me plaît
beaucoup.
Mais justement, pour en revenir à ce terme de pop, donc de populaire, quelle place tient le populaire dans votre création? Est-ce que vous faites de la musique pour être populaire? Alors, on pose pas cette question à un philosophe généralement parce que c'est pas la meilleure façon d'être populaire. Mais du coup, enfin, pourquoi pas, hein, ça peut arriver. Mais est-ce que votre rapport à la musique est aussi celui, inconscient ou pas, d'une quête de popularité?
Oui. Alors, au sens où je la définis dans le livre, c'est-à-dire au sens d'une catégorie esthétique, c'est-à-dire l'idéal d'une musique qui serait immédiatement accessible et séduisante, tout en étant exigeante artistiquement. En gros, c'est les chefs-d'œuvre de la pop qui sont comme ça. Je pense que c'est un horizon pour les compositeurs de pop, un horizon auquel ils se rapportent plus de façon plus ou moins politique. polémique. Alors, en l'occurrence, dans mon cas, je cherche toujours à faire des tubes, mais il y a toujours un moment où je n'arrive pas, par contre, à céder complètement à une exigence qui serait purement radiophonique.
Oui, mais c'est ça. C'est difficile de parler de populaire et de popularité quand, par ailleurs, on a des exigences théoriques et j'imagine, de manière là encore plus ou moins consciente et surtout de manière académique et structurelle, une forme de snobisme de l'intellectuel qui se dit « Ah ben non, je vais quand même pas me vautrer dans le tube populaire ».
Eh ben, moi, ça me dérangerait pas d'avoir un super tube populaire. En revanche, c'est plutôt dans l'autre sens qu'il faudrait voir, c'est que, enfin, je sais pas, on m'a jamais invité à la télé. Je pense que les gens se disent non, mais elle a l'air beaucoup trop intello. Mais je trouve ça vachement dommage.
Alors, je sais pas si l'émission du jour, on va le faire ça ensemble. On va essayer de déconstruire cette image intello. On va écouter un autre son, une chanson très belle. Vous allez nous dire de quoi il s'agit.
La luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto?
¿Qué sommes-nous en train d'écouter, Agnès Guérot?
C'est Paco Ibáñez, la canción del jinete.
Et pourquoi cette chanson compte-t-elle pour vous ?
Alors c'est un texte de Federico García Lorca et c'est la langue de ma mère qui est andalouse et on a grandi, hein, mes sœurs, mon frère et moi, dans cette musique-là. Ça c'est un morceau je crois qui est enregistré en 64,
c'est ça.
Si je ne me trompe pas. Donc c'est pour moi, voilà, c'est une émotion immédiate pour le coup. Alors est-ce que c'est populaire? Oui, enfin c'est pratiqué, c'est une guitare-voix assez virtuose d'ailleurs. C'est un certain lien à la musique la plus authentique qui m'a été donnée d'entendre. Alors, on peut critiquer cette notion d'authenticité, mais c'est un modèle de vérité de l'expression. Je trouve que Ibáñez, comme ça, a vraiment réussi à faire de ces poèmes de García Lorca les chansons qui leur allaient absolument, quoi. Donc on peut pas dire que Paco Ibáñez soit une figure pop au sens de Rihanna, mais c'est quelqu'un qui était assez connu dans les années 60, qui tournait, et ses disques, hein, ses enregistrements sont très importants en Espagne. Enfin, il est connu, il est aimé. Donc oui, c'est de la musique populaire enregistrée et ça fait partie de mon enfance.
Vous arrivez à dire quel type de vérité est en jeu ici dans cette chanson? Vous avez parlé de vérité. Vous avez dit pour moi, cette musique, c'est de la vérité.
Ouais.
Quelle vérité s'agit-il?
Vérité de l'expression. C'est-à-dire que je crois que c'est pas la question de l'énoncé d'une vérité scientifique, hein, parce que ce qui est raconté, d'ailleurs, c'est un texte qui est étonnant, qui est très gothique, romantique gothique, avec un cavalier mort sur son cheval. Enfin bon, c'est vraiment avec la lune qui brille. C'est avec des images un peu surréalistes. El perfume de flor de cuchillo. Bon, c'est drôle d'expression, donc il n'est pas question de vérité, évidemment, sans un énoncé scientifique, mais de justesse. Je trouve que dans la façon dont Paco Ibáñez chante ce morceau, il y a à la fois le mouvement du cavalier, du cheval, une certaine morbidité aussi. C'est presque, on dirait que la guitare avance en catastrophe. Là. C'est pas un amble comme ça, souple et conquérant. On sent que aussi, hein, on le perçoit que c'est enregistré en une prise. Enfin, y a pas un montage incroyable derrière tout ça. Donc ça répond à certains critères de l'authenticité dans certains genres de la musique, en folk, on est sensible à ça, en reggae, dans toutes les musiques où on est sensible à la question du roots, à la question des racines, et en flamenco encore plus. Là, c'est pas du flamenco, hein, on est dans une sorte de folk espagnol. Mais voilà, il y a tout un tas de dimensions qui évoquent, en tout cas, qui laissent s'exprimer l'humanité sans beaucoup de phare. Mais je ne suis pas naïve, hein. Je sais qu'il y a les médiations de l'enregistrement, il y a un mixage, c'est tout ce que je raconte dans le livre aussi.
Oui, parce que vous définissez dans votre livre la chanson populaire comme étant la chanson enregistrée, en fait. À partir du moment où l'enregistrement a lieu, qu'on peut parler de pop.
La pop, au sens musique populaire moderne, c'est ce moment où, en effet, les folklores se déterritorialisent parce qu'on s'est mis à enregistrer des voix au fin fond du Kansas ou à Madrid ou à, je sais pas, dans quel coin du Poitou. Et que on a pu écouter ces voix au-delà des frontières qui leur étaient données par la présence en chair et en os. Et ça, ça a permis cette espèce de creuset vertigineux qu'est la musique populaire enregistrée, c'est-à-dire la musique pop, la musique populaire moderne.
Si on reste dans votre univers musical, bien loin du flamenco, du reggae et des roots, on trouve ceci.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur, pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons.
La délicatesse d'Anne Sylvestre qui déclare son amour pour les gens qui doutent. On aime beaucoup les gens qui doutent ici au chemin de la philosophie. Alors tous les philosophes ne doutent pas, mais c'est quand même l'intérêt aussi de la radio parce qu'on entend le doute à la radio. Est-ce que c'est le sujet de la chanson ou Anne Sylvestre ou les deux qui vous parlent autant, Anne Sylvestre?
Alors c'est évidemment le sujet de la chanson et évidemment Anne Sylvestre que je trouve une artiste, une des plus importantes artistes françaises. Je trouve parfois assez sous-estimée ou sous-représentée, quoi. Il y a d'innombrables chansons absolument magnifiques de cette autrice, compositrice. J'aurais pu proposer Aveu aussi, qui est une chanson sublime. Enfin, elle en a des tas. Hein.
Et alors elle, chanson pour enfants aussi.
Et oui, alors que ces fabulettes sont très connues, mais voilà, il y a tout un répertoire adulte.
Beaucoup moins connu.
classé X, mais adulte, d'Anne Sylvestre, qui est moins connue et qui est, pour le coup, là aussi, qui donne envie de parler d'authenticité, de vérité, parce que je crois que c'est même un souci dans son écriture. Comme le philosophe, elle ne se soit pas à sa table d'écriture pour se divertir, quoi. Elle cherche une vérité, l'expression. Et là, je trouve que c'est un exemple, pour le coup, de la différence entre philosophie et musique. Enfin, il est évident qu'il y a une différence, mais je parlais des méditations métaphysiques de Descartes, et au cœur de ce livre, bon, il y a le doute philosophique, hein, la construction du doute philosophique qu'il lui arrive à énoncer. Je pense donc je suis. Bon, et là c'est amusant parce que c'est justement la musique ou du moins la chanson en tant que cette association de paroles et musique permet d'énoncer une dimension du doute qui est totalement absente du texte de Descartes,
qui est laquelle,
une dimension existentielle en fait, qui est le doute non pas du tout comme table rase, mais au contraire comme encombrement, c'est-à-dire qu'on n'arrive absolument pas à choisir l'attitude à adopter dans l'existence. Et j'adore ce moment où il dit j'aime les gens qui doutent, ceux qui sont pas logiques, alors que la base du logos, de la logique cartésienne, c'est justement ce moment du doute philosophique. Donc là, on a vraiment ce qui peut se dire par la philosophie versus ce qui peut se dire par l'expression chantée. Et ce qui peut se dire par l'expression chantée, c'est cette fragilité, cette incertitude, cet encombrement, là où de l'autre côté, on cherche plutôt la détermination, la table rase. Donc là, c'est une expression que je trouve intéressante. Et je pense qu'en effet, que je quand je fais de la philosophie, ben, je me range plutôt du côté de l'effort cartésien, même si c'est très, très différent. Enfin, évidemment, je ne me prends pas pour René Descartes. Mais... Et puis, quand j'écris des chansons, c'est cette approche qu'a Anne Sylvestre, c'est un guide pour moi. C'est l'écriture d'Anne Sylvestre, c'est un modèle de qualité d'écriture, pas au sens décoratif du terme, au sens pertinent, juste. Ouais.
Comment vous vient l'écriture d'une chanson ? Vous choisissez d'écrire des chansons ou elles s'imposent à vous ?
Alors, je procède rarement, quasiment jamais en fait, à partir d'un texte. C'est toujours la musique qui m'emmène dans un climat, un climat sonore, une ambiance.
La musique que vous composez ?
Ouais. Voilà, je peux commencer à faire un peu à jouer sur même un synthé ou ma guitare ou avoir un petit élément de percussion, même un petit shaker, enfin, pas grand chose ou une goutte d'eau qui tombe régulièrement et qui induit un rythme. Et c'est ce climat sonore qui m'amène à voir des images. C'est assez, cinématographique, enfin, et ces images rejoignent de proche en proche des idées qui vont me permettre d'écrire, de compléter les paroles. Mais souvent, la première phrase, c'est vraiment le climat sonore. C'est jamais le texte qui domestique la musique. C'est toujours la musique qui génère, par génération spontanée, des mots. J'ai un morceau qui s'appelle Le Royaume, et on était parti parce que m'arrive de composer avec Xavier Thierry qui réalise mes disques, et on avait une musique comme ça qui évoquait quelque chose d'assez archaïque, enfin un peu comme une sorte de péplum, enfin, et cette chanson s'appelle Le Royaume, et voilà, j'imagine une histoire comme ça avec une communauté et un étranger comme ça qui vient perturber tout le monde dans cette communauté, et je sais que c'est la musique qui a généré ces images-là. Alors ensuite, je dis des choses que j'ai envie de dire, bien sûr, mais...
Et en philosophie, parce qu'il n'y a pas de musique, c'est d'abord les impressions ou c'est d'abord l'idée qui vous conduit à l'écriture?
En philosophie...
Enfin, je ne sais pas, musique, peut-être la musique vous inspire-t-elle des textes philosophiques,
je sais non, pas. Je crois que c'est les idées. Alors c'est marrant parce que ce livre, il y avait un petit côté mission quand même. J'avais l'impression qu'il fallait que je l'écrive, quoi. Donc là, c'est une nécessité assez assez profonde. Et là, c'est plutôt une sorte de lièvre que j'ai couru pendant très longtemps, pendant 7 ans quand même. Donc c'est pour le coup, c'est un processus qui est beaucoup plus long que celui d'une chanson. Ça va beaucoup plus vite. Une chanson, on peut la composer en un après-midi. Et puis, on va affiner beaucoup de choses sur des mois, sur des semaines ou des mois. Mais le livre, c'était plutôt des ramifications. Enfin, j'avais l'impression d'être un peu, c'est classique comme image, mais d'être une Alice, là, qui poursuit un petit lapin, mais qui se démultiplie, quoi. Parce que c'est pas tout de vouloir écrire sur la musique populaire. Dès que vous y réfléchissiez, vous êtes là. Ah, tiens, folklore. Ah tiens, enregistrement, ah tiens, hook, ah tiens, innocence, matériaux sonores, radio, écoute, bon, tous ces termes-là, voilà, amenaient tout un tas de bifurcations. Et là, c'est plutôt le plaisir d'entrer dans des détails qu'on n'avait pas vus au départ, donc de courir, voilà, comme Alice qui suit le lapin et qui rentre dans son terrier et qui découvre des galeries multiples, infinies, et qui comprend que parfois il va falloir laisser de côté certaines galeries, parce que sinon on va jamais finir le livre.
Et il y a une créativité dans l'écriture philosophique ?
Je pense que dès qu'on construit un discours, il y a un moment esthétique. En tout cas, même quand j'ai fait ma thèse sur Adorno, qui est pas le livre sur la pop, c'est un autre texte. Ça s'appelait d'ailleurs Une construction moderne, et j'avais vraiment l'impression d'avoir construit Adorno comme une presque quelque chose d'assez spatialisé. Moi, j'ai même parfois un problème avec la discursivité de la philosophie, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un début et une fin. J'aimerais qu'on visite mon livre un peu en entrant par plusieurs accès. Et d'ailleurs, j'invite le lecteur régulièrement à ça. Cette dimension de créativité, je l'interprète comme ce moment que j'appellerais de construction, c'est-à-dire que qui est peut-être un moment aussi qui est fragile en fait sur le plan philosophique, parce que c'est pas le moment le plus rationnel, c'est justement le moment où on donne forme aux choses sans nécessairement que ça soit la seule forme possible. Vous êtes créatif à partir du moment où vous proposez quelque chose qui aurait pu ne pas être. Alors que, voilà, en philosophie, la déduction, c'est déjà là avant vous, d'une certaine manière.
Oui, c'est ça, on n'invente rien de nouveau en philosophie, vous pensez ?
Alors bon, c'est le vaste débat, ouais. La vérité est ancienne, on la découvre. Je pense que, dit comme ça, c'est une proposition qui me paraît fausse, évidemment, quand on invente, mais ce qu'on invente, c'est pas la vérité, à moins de prendre invention au sens de découverte, et auquel cas, oui, on l'invente parce qu'on la découvre, mais elle est déjà là. Non, ce qu'on invente, à mon sens, ce sont des configurations conceptuelles, c'est qu'on associe des concepts ensemble. J'entendais là dans la petite présentation la ritournelle, la
phrase de Deleuze. Oui.
Voilà. Bon, c'est cette façon d'associer des termes. Je vous disais voilà dans le livre. Bah, peut-être que quand je construis cette catégorie esthétique de l'utopie de la popularité, j'invente quelque chose. Mais je prétends pas inventer le nom de popularité et le nom d'utopie, évidemment pas.
D'ailleurs, la question se pose aussi dans l'univers musical. Est-ce qu'on invente quelque chose ou pas,
hein? Ah oui, c'est... oui, voilà. Bon, là, ça, vaste question. Et en musique populaire, en plus, il y a ce fait qu'au départ, c'est une musique qui circule, c'est une musique anonyme. Donc voilà, depuis, Adorno a dit des choses intéressantes d'ailleurs là-dessus, sur la naissance l'apparition des éditeurs et la naissance comme ça du compositeur patenté. Donc avec cette idée qu'on va dire cette musique est à moi. Et ça, parfois en musique pop, c'est très ambigu parce qu'on se rend compte qu'il y a des chansons qui sont qui sont très très inspirés d'un air du temps. Bon, mais là c'est encore tout un autre débat, et tous les débats aujourd'hui sur la question de l'appropriationnisme redoublent ce problème de la propriété intellectuelle, du problème décolonial en fait. Donc c'est extrêmement complexe et extrêmement riche.
Qui nous sommes? Qu'est-ce qu'est notre présent? Qu'est-ce que c'est que ça aujourd'hui?
Et c'est Michel Foucault qui vous pose la question, puisque vous abordez les problématiques qui sont plus contemporaines. Quelle place tient dans votre travail, Agnès Guéraud, que ce soit celui de compositrice, auteur-interprète et de philosophe, la question du présent, de notre époque ?
Alors, je n'ai jamais senti, j'ai des amis comme ça qui postent régulièrement des statuts Facebook pour commenter l'actualité. Moi, je suis pas convaincue d'avoir quelque chose à dire de fulgurant sur ce qui se passe à l'instant T. Je suis à l'écoute, bien sûr, je m'intéresse, mais quand j'ai écrit ce livre sur la musique populaire, ce qui me plaît aussi, c'est de plutôt faire œuvre de mémoire, de montrer qu'en fait c'est pas du tout un art qui est simplement un art du présent, mais un art qui se construit depuis un siècle. Je me sens pas particulièrement comme une philosophe de l'instantanéité, enfin de l'actualité au sens journalistique
voilà.
Du terme.
Mais le présent, c'est autre chose encore.
Voilà.
On peut se sentir dans le présent sans être dans l'actualité.
Voilà, et donc il me semble que réfléchir, apporter des outils théoriques sur cet objet qui reste un objet, si ce n'est présent, du moins omniprésent dans nos vies démocratiques contemporaines, c'est participer au présent, ou du moins s'en faire l'écho. J'ai plutôt l'impression que je me fais l'écho du présent que j'ai pas l'ambition de dicter ce que doit être le présent. Mais bon, dans la mesure où il y a un discours critique, finalement, c'est pas tout à fait honnête ce que je dis là, parce que bon, il y a tout un discours critique. Je parle de Spotify, je parle de la manière dont la musique est diffusée, écoutée aujourd'hui, et ça s'inscrit dans un débat critique au présent. Je ne tiens pas à m'exprimer sur tout et n'importe quoi parce que ça a lieu aujourd'hui.
Mais est-ce qu'il y a une responsabilité ? de la chanteuse et de la philosophe de s'engager, que ce soit par son travail ou par écrit, c'est pas forcément un post Facebook, mais vous représentez quelque chose quand vous écrivez un livre et vous représentez quelque chose quand vous êtes sur scène ou que vous publiez un album. Est-ce que de ce fait découle une responsabilité que vous voulez assumer ou pas d'ailleurs? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça?
Oui, responsabilité, certes, mais je crois qu'elle s'applique à n'importe qui en fait, qu'on soit philosophe ou pas.
Certes.
Et comme je vous disais pour le livre, je l'ai un peu écrit, j'avais le sentiment d'avoir un peu une mission. Alors c'est très prétentieux dit comme ça, mais j'estimais que voilà, il fallait que je l'écrive et je voulais surtout pas mourir avant de l'avoir écrit. Donc c'est très très naïf tout ça, ça c'est une expression du sentiment de la responsabilité, la mission. Quoi, c'est quand même la responsabilité.
En tout cas, il faut que je le dise, sinon personne ne le dira.
Voilà,
c'est ça.
Il y avait presque cette ce souci-là. Et puis je la ressens aussi cette responsabilité dans l'enseignement, qui est plutôt une responsabilité de pas embrouiller les gens, parce qu'en fait les concepts sont tellement manipulés, et c'est très bien aussi qu'ils soient et on le sait que les concepts se réifient comme n'importe quoi, comme les chansons populaires, Adorno le dit, mais on le voit aussi. Voilà, j'ai mes étudiants à la Villa Arson, ils me parlent tous de l'anthropocène, et ben on a fait un séminaire sur l'anthropocène, on va sans doute en reparler encore, pour se rendre compte qu'il s'agissait pas simplement d'un concept qui est un camp comme ça où il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Non, c'est un champ avec des débats, avec des positions qui peuvent être très différentes. La réflexion sur l'anthropocène n'est pas du tout unilatérale. Donc, par exemple, montrer à mes étudiants que c'est pas unilatéral.
Donc l'anthropocène, c'est la réflexion sur les rapports entre l'homme et son environnement, qui part du principe que l'homme, au bout d'un moment, façonne son environnement plus que l'inverse.
Alors, façonner l'environnement, ça c'est l'hominisation, hein, c'est plus ancien que l'anthropocène, ça apparaît avec l'apparition de l'homme. En revanche, l'anthropocène, c'est l'idée qu'on entre dans une transformation de l'écosystème, de la biosphère, qui se met à galoper, qui a des effets et dans leur vitesse et dans leur dimension dépassent le champ de notre action. L'anthropocène, voilà, c'est ce moment où le retour de bâton est démesurément plus fort que ce qu'on attendait. C'est pas juste, j'ai laissé cet outil dans la nature, je vais le retrouver. Non, c'est j'ai laissé ce produit dans la nature et tout à coup la nature est complètement transformée. Et mon mode de vie doit se transformer aussi. Donc c'est et tout ça, ce sont des choses qui les intéressent et moi aussi. Donc la responsabilité, elle est là, elle est dans l'effort intellectuel d'aller essayer de comprendre de quoi on parle et comment eux ils peuvent utiliser ces concepts sans que ça soit simplement décoratif, parce que ça fait bien dans l'art contemporain de citer ce terme-là. Donc
c'est plus dans l'enseignement que vous arrivez à investir ce lieu d'une réflexion peut-être plus engagée, parce que on peut pas dire que l'univers de la chanson soit très engagé à ce niveau-là, par exemple.
Oui, après
il existe des chansons qui parlent d'écologie, par exemple.
Oui.
Mais c'est difficile de mesurer la responsabilité du chanteur, qui est pourtant énorme à cet égard.
Mais peut-être qu'on l'a vécu dans les années 80, les live-aid et tout ça, l'idée de s'engager pour l'Éthiopie, et c'est devenu quelque chose de tellement mainstream, la figure du compositeur engagé, que maintenant on ne peut plus être engagé que pour soi-même en tant que personne trans ou LGBT, il n'y a pas, c'est très difficile. On s'est rendu compte, en fait, pour revenir même sur la notion d'engagement, même au sens sartrien du terme, c'est devenu très difficile de parler pour d'autres. Et de façon très légitime, c'est difficile, parce que c'est quand même un problème que l'intellectuel se prenne pour quelqu'un qui peut parler pour d'autres, que l'intellectuel parle pour les ouvriers. C'est un problème depuis Marx. Georges Lukács essaie de le résoudre à sa manière. Déjà, c'est un casse-tête même pour l'intellectuel, que finalement l'intellectuel, qui est toujours plus ou moins bourgeois, ne serait-ce que en termes de capital culturel, se retrouve à parler pour les prolétaires ouvriers.
Non, mais pensez à Sartre, par exemple, qui l'habille en cours. Qui fait un discours devant l'usine.
C'est ça, et on en est revenu. Enfin, il y a vraiment une gêne, en fait, par rapport à cette posture de coucou, quoi, d'aller comme ça habiter la place d'un autre sous couvert du fait qu'il pourrait pas s'exprimer lui-même. C'est ça qui rend difficile la figure de l'engagement au sens existentialiste, en tout cas, aujourd'hui. Alors, il y a plein de façons de le faire, mais moi, je crois que j'essaye de s'il me reste quelque chose d'existentialiste, ce serait ce fait d'assumer entièrement ma posture, y compris dans son inconfort, parce que c'est pas forcément très confortable hein, d'être à la fois dans des clips sur YouTube où voilà, je chante ma chanson et puis en même temps faire des conférences. Enfin, il y a quelque chose d'un peu. Enfin, j'y vais parce que c'est comme ça et parce que c'est moi et que j'ai besoin d'exprimer ces deux choses. Mais il y a forcément un prix à payer à tout ça. Soit c'est un prix de sérieux d'un côté, soit c'est le prix d'être accusé d'être un télo de l'autre. Enfin, j'exagère, hein, on m'accuse pas spécialement d'être un télo, mais bref. Mais l'engagement, ce serait ça. Ce serait en tout cas de vivre cette vie double hein, de femme musicienne et pratiquant la philosophie. Jusqu'au bout et avec le courage que parfois ça implique, sans non plus trop en faire sur ce courage-là.
On va se quitter avec un titre de vous, parce que ceux qui ne vous connaissent pas ne savent pas à quoi ressemble votre musique. C'était délibéré de notre part hein, qu'on écoute votre parole avant de découvrir votre chanson. Votre livre, lui, s'appelle Dialectique de la pop, on le trouve aux éditions de La Découverte. Et votre dernier album, Vie Future, comporte cette chanson « Où est passée ton âme ?»
Se répète, oh comme le temps a passé. Je crains de revivre sans le savoir cet instant qu'on a traversé. Où est passé ton âme? Cariño, no lo sé.
Première diffusion de votre chanson « Où est passée ton âme, Agnès Guéraud ?» tirée de votre album qui paraîtra le 11 octobre. L'album s'appelle « Vie future » et on pourra vous retrouver en concert le 12 décembre au Café de la Danse. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, voici Géraldine Mosna-Savoie pour son journal de la philo.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Vous poursuivez cette semaine, après la semaine dernière, votre anti-manuel de philosophie.
Alors j'en rappelle l'idée de cet anti-manuel de philosophie. Tous les vendredis, je vais m'attacher et même m'attaquer à toute cette petite phrase censée nous aider, nous rendre meilleurs et que l'on met à la sauce philosophique pour leur donner une légitimité, une validité. Comme par exemple, s'aimer soi-même avec Sénèque, savoir dire non avec Schopenhauer ou prendre le temps avec Bergson. Je dis ça au hasard, mais ça pourrait exister. Les sujets ne manquent pas quoi qu'il en soit, mais il y en a pourtant un qui s'est imposé assez rapidement, c'est cette locution latine devenue une sorte de slogan.
Alors carpe diem, alors carpe diem, alors carpe diem. Allez à Jacques Est, on vient de Budapest ou de Gare de l'Est. Alors carpe diem, alors carpe diem, alors carpe diem.
Le hasard fait bien les choses. Alors même que je me demandais de quelle injonction pseudo-philosophique j'allais bien pouvoir vous parler, j'ai reçu une nouvelle édition des Odes d'Horace. Poète latin, c'est à lui que l'on doit justement cet adage si galvaudé du carpe diem. Les éditions Rivage l'ont bien compris et ont ainsi intitulé ce recueil de textes d'Horace, non pas Odes, mais carpe diem. Sûrement pour plus de lisibilité et peut-être aussi pour plus de ventes. Livres, chansons, restaurants et même tatouages. L'expression n'a pas seulement inspiré Ronsard, Molière ou Hugo, mais il est devenu une sorte de slogan marketing, une promesse de vente, un credo personnel, un élément de langage. Littéralement, cueil le jour, on en rencontre la version actualisée avec l'injonction de vivre au présent. Mais ça veut dire quoi vivre au présent? Ça veut dire quoi de cueillir le jour? Cette idée m'a toujours interloquée. Est-ce que je ne vis pas déjà et de fait au présent? Et quand je pense au passé, que je me remémore par exemple des souvenirs ou quand je fais des projets, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de déconnecté du présent?
Bonjour. Je vous invite à faire une pause de 5 minutes. 5 minutes pour prendre le temps de respirer en pleine conscience. 5 minutes pour être ancré dans l'instant présent.
Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire d'être ancré dans l'instant présent? Est-ce que ça voudrait dire que, quand j'écris cette chronique par exemple, ou quand je vous la lis, je ne suis pas dans l'instant, je suis déjà projeté au moment où vous l'écouterez, peut-être dans quelques jours? Ou alors, au contraire, est-ce que ça veut dire que je suis encore collé au passé, au moment de la rédiger, en train de me demander si je dois mettre un point ou une virgule, un mot ou autre, etc. Voilà, je suis en train de vivre tout le paradoxe du carpe diem, tout le paradoxe de cette injonction à vivre l'instant présent. Vivre l'instant présent suppose de s'arracher au cours du temps pour saisir le présent, le considérer, le mettre à distance. Mais est-ce que ce n'est pas le contraire de ce qu'on veut en prenant à tort et à travers carpe diem? Je veux bien me mettre à vivre l'instant présent, mais quand je m'y mets, j'y pense et je ne saisis rien. Je ne fais qu'échouer à saisir quelque chose. C'est le problème et c'est ça qui me fascine, ou alors me désespère avec cette histoire de carpe diem, qu'on nous dise de vivre l'instant présent alors qu'on le vit déjà et que se dire qu'on doit le vivre empêche de le vivre, vous voyez?
Cueillez sans tarder le bouton de la rose. En latin, on exprime ce sentiment en disant « carpe diem ». Qui en connaît la signification ?
Carpe diem, c'est saisir le jour.
Bravo, monsieur.
Mix.
Mix, un autre nom inusité. Saisir le jour, saisir l'occasion. Cueillir lorsque l'occasion se présente. Pourquoi l'auteur a-t-il écrit cela ?
Parce qu'il était pressé.
Non ! Ding ! Merci quand même d'avoir participé. Parce que nous sommes de l'engrais pour vers de terre.
Il faut que je me rende à l'évidence, le carpe diem fait vendre à défaut de faire vivre. Tapez carpe diem sur Google et vous aurez des adresses de salons d'épilation et des cafés. Cliquez sur l'onglet vidéo, vous tomberez sur cet extrait du film Le Cercle des Poètes Disparus, extrait devenu archi-célèbre. Qu'est-ce qui peut bien plaire dans cet appel à cueillir le jour? Qu'est-ce qui est si séduisant? Pourquoi ça nous parle? Alors j'ai trouvé des réponses. Peut-être que ça plaît parce que, comme on l'entend dans l'extrait, c'est une manière de se rappeler qu'on va mourir et qu'il faut en profiter. Peut-être qu'on s'en veut aussi de ne pas jouir de ce merveilleux trajet en transport en commun, de ce délicieux sandwich avalé en quelques minutes à midi, de ce sublime moment d'attente au supermarché. Ou alors j'ai une autre réponse. Tout simplement, peut-être parce qu'on a un problème avec le temps. Entre les injonctions à prendre son temps et celles à vivre l'instant présent, voir filer le temps semble insupportable. Mon conseil, donc, laissez faire, ne pensez plus au temps, car c'est en y pensant que vous perdrez le vôtre.
Merci Géraldine, vous avez un conseil de lecture à nous proposer ?
Alors, on peut quand même retourner aux sources du carpe diem en lisant Horace, qui paraît donc dans une nouvelle édition chez Rivage.
Votre chronique est à réécouter en prenant son temps sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Et merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Isis Jourda avec Manon de la Selle, Géraldine Mosna-Savoie, Jules Barbier, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui a réalisé pour vous cette semaine, Alexandre Dang à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle série d'émissions. À partir de lundi, on examinera 4 phrases nietzschéennes qui sont devenues des hashtags aujourd'hui, on pourrait dire. Dieu est mort, ce qui ne me tue pas me rend plus fort, deviens ce que tu es, et ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. 4 phrases sublimes, très mal comprises, qu'on examinera pour vous avec les meilleurs des Nietzschéens à partir de lundi. D'ici là, pour écouter ce numéro de Profession Philosophe en compagnie de la chanteuse et philosophe Agnès Guéraud ou bien la série d'émissions sur la transition, que nous avons diffusée depuis lundi, c'est très facile. Vous vous rendez sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie, vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez, c'est très facile. Rendez-vous lundi donc, d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.